Ce soir à GIA, il y a un reportage qui sera diffusé sur le Colorado, et non pas sur l'avalanche de Patrick Roy, mais plutôt sur la légalisation du pot récréatif là-bas. Ils sont allés faire un tour avec quelqu'un qui s'y connaît en matière de marijuana. Ils sont allés voir si ce serait un modèle applicable ici au Québec. Celui qui s'y connaît en la matière, qui a accompagné le journaliste de TVA, de GIA là-bas, s'appelle Hugo Saint-Onge. Monsieur Saint-Onge, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Tremblay.
Comment allez-vous?
Ça va assez bien, et vous?
Absolument, absolument. Vous êtes allé faire un voyage avec l'équipe de GIA. Est-ce que c'est la première fois depuis la législation qui permet de vendre et de consommer du pot, ben plutôt d'acheter et de consommer du pot au Colorado, vous y alliez, ou est-ce que vous êtes allé faire une couple de voyage là-bas avant la présence avec GIA?
C'était la première fois.
Et est-ce que c'était le paradis?
On pourrait dire peut-être un paradis moins. En fait, c'est compliqué à dire. J'ai participé à l'ouverture du Club Compassion à Montréal. Nous, on offrait du cannabis médical à des personnes malades. Alors, j'avais été beaucoup dans cette atmosphère de beaucoup de cannabis, différentes génétiques, comprendre c'est quoi leur utilité telle et telle, etc. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau, mais c'était la première fois que je me trouvais de l'autre côté du comptoir et d'être un acheteur, d'être comme quelqu'un qui rentre dans une boutique d'auto et qui trippe sur les voitures. Ben moi, là, je trippais à voir toutes les génétiques sur lesquelles le revendeur avait travaillé. Parce que là, c'est un modèle qui est qu'on dit vertical. Ça veut dire que le revendeur, c'est aussi le producteur.
Soyons concrets, est-ce qu'au Colorado, quand vous êtes allé là, vous rentrez au dépanneur, est-ce qu'on vous offre du cannabis comme on vous offre de choisir un player ou un exporté?
En fait, il y a plus de revendeurs de cannabis au Colorado que de Starbucks. C'est tout dire.
C'est vrai?
Oui. Ah oui, non, c'est le gold, c'est le, il y a eu un Golden Rush en 1868 à Denver, et aujourd'hui, c'est le Weed Rush. C'est vraiment là la ruée vers l'or vert. Il y a une volonté de produire une nouvelle richesse qui existait déjà d'ailleurs. Parce qu'on ne réinvente pas la roue, là. Le cannabis, c'est pas un nouveau marché, là. C'est un marché qui est plutôt très vieux, plus vieux que les États-Unis. Sauf que c'était prohibé depuis 100 ans. Donc, c'était juste caché derrière des murs, des portes, des numéros de cellulaire qui changent à chaque semaine. Et tout le problème de se procurer du cannabis sur la rue, ça veut dire que la personne n'a pas un endroit fixe où tu peux reporter ton produit quand il y a une mauvaise qualité, quand il y a une moisissure, ou etc. Donc là-bas, au Colorado, oui, maintenant, il y a ce droit-là. Là. Je veux dire, en tant que consommateur, on peut retourner le produit s'il fait pas l'affaire, s'il est pourri, etc. Donc, il y a comme un lien de confiance qui peut s'établir, qui n'est pas possible dans un marché illégal.
Dites-moi, parce qu'il y a différents modèles dans le monde pour la légalisation du pot. Est-ce que celui au Colorado, c'est similaire à ce qu'il peut y avoir à Amsterdam?
Aucunement. Amsterdam, c'est encore criminel. C'est juste que c'est dépénalisé. C'est-à-dire qu'il n'applique plus les peines qui sont relatives à certaines transactions sur le cannabis, dont la possession simple, la transaction de 5 grammes et moins. Donc, c'est comme une espèce de truc semi-ombragé, là. C'est un marché gris, là, on pourrait dire, parce que les intervenants qui revendent sont obligés d'avoir un permis de la ville, mais l'État fait aucun autre contrôle. Tandis que, au Colorado, c'est un modèle que, pour moi, de surcontrôle. Il va avoir là-bas, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est « the big brothers of weed ». Ils sont en train de mettre une base de données où chaque plant qui va être cultivé par les revendeurs vont être identifiés individuellement par un code-barre qui sera transmis à la base de données de l'État. Donc, c'est un système un peu lourd pour un produit agricole, à quelque part. Ça, c'est l'espèce d'embûche. C'est le fait que, moralement, on considère le cannabis comme un narcotique, comme quelque chose de très dangereux. En fait, la prohibition, depuis 90 ans, nous a fait à croire que le cannabis était dangereux. C'est la prohibition qui est dangereuse.
Il y a différentes sortes de cannabis. Est-ce qu'il y en a qui est plus dangereux que d'autres?
Pas vraiment. Les cannabinoïdes ne changent pas. En fait, après, c'est des effets qui sont un peu différents. Il y a certains cannabis qui sont vraiment stimulants. Il y a d'autres cannabis qui sont vraiment de puissants relaxants musculaires. Et après, tu as toute la variance entre les deux.
OK.
Il y a des cannabis là, qui réveillent, là, comme prendre un café. Là.
je suis pas un grand connaisseur, mais je mentirais pas au monde. Je me souviens qu'est-ce que ça sert, je me souviens qu'est-ce que ça goûte, puis je me souviens du buzz, mais c'est mes années de jeunesse. Mais je suis curieux, honnêtement, là, pour l'expérience, honnêtement, je pense que si jamais je vais au Colorado, pour le plaisir de faire partie de l'histoire, j'irai dans une place comme ça. Racontez-moi comment ça marche. Quand vous avez dit qu'il y en a à peu près à tous les coins de rue, il y en a plus que les Starbucks. Dites-moi, mettons, je suis sur le coin d'une rue, j'ai le goût de m'acheter un joint ou de m'acheter du cannabis. Dites-moi comment ça marche. Comment c'est, les racks sont faits. Dites-moi comment ça coûte.
Bon, évidemment, le fait qu'il y ait une hyper-contrôlite aiguë de l'État sur chaque brindille qui existe dans ce système-là, ça génère des coûts plus élevés. Parce que entre vous et moi, le cannabis, c'est comme une herbe. Aller à l'épicerie, toutes les herbes, ça coûte pas très cher. Mm-hmm. Mais là-bas, ça coûte à peu près 16 $ le gramme, plus 20 % de taxation. Donc, ça revient à peu près à 19-20 $ le gramme, ce qui est à peu près le double du prix actuellement ici. Mais là-bas, tu as 21 ans et plus, tu vas dans un revendeur et tu achètes ce que tu veux en payant le prix. Et justement, au marché noir, là-bas, il existe encore du cannabis moins cher et de très bonne qualité. On pense souvent que le marché noir, c'est tout le temps des produits frelatés. Et non, il y a de très bons producteurs de cannabis au Québec, d'ailleurs. On trouve encore du très bon cannabis. Mais là-bas, c'est très facile. Tu as 21 ans, tu as le droit.
Ben, c'est ça, c'était ma prochaine question. Si ça allait éliminer le marché noir, ce que vous me dites, c'est que non, il y aura toujours un marché noir parallèle qui va être là.
Le problème, c'est qu'on veut créer un nouveau marché à place d'intégrer le marché existant et d'honorer les producteurs éthiques. Les producteurs indépendants, les producteurs qui font le bon travail devraient avoir le droit de faire partie du nouveau marché, ou en fait du marché actuel. Moi, on parle souvent de légitimer le marché actuel, parce que le marché actuel répond pas mal à la demande. Il y a des problèmes, des écarts qu'on doit régler par différentes réglementation, mais on n'a pas besoin de tomber dans une contrôlite aiguë. Il faut trouver une façon plus ouverte. En fait, on veut libéraliser le marché, nous. Le marché qui existe est fonctionnel. Donc, c'est ça le problème au Colorado. On essaie d'éliminer des gens qu'on devrait intégrer. Fait que ces personnes-là continuent à faire affaire. D'ailleurs, pour travailler dans le régime, il faut passer un test de sécurité, vérifier avec vos empreintes digitales. T'as un dossier criminel, même pour une simple possession de cannabis, tu ne peux pas travailler dans le domaine. Tu ne peux pas avoir un permis pour être un producteur et un revendeur. Donc, on élimine tous ceux qui ont fait ça dans le passé, qui, rappelons-le, aux États-Unis, c'est beaucoup de Noirs et de Latinos qui se faisaient arrêter par la prohibition, par le régime prohibitionniste. Alors, ces gens-là sont exclus du système. Donc, ces personnes, ils continuent à agir comme ils faisaient avant. Les réseaux sont les mêmes. D'ailleurs, 80% des transactions qui sont faites, c'est avec des touristes. Donc, la plupart des consommateurs du Colorado continue à s'approvisionner dans les anciens réseaux.
Mm-hmm. Donc, éventuellement, si je pousse...
C'est un mensonge d'éliminer le marché noir. D'ailleurs, le marché noir, je trouve ça tout le temps drôle comment on a une vision négative du marché noir. Parce que quand on était en URSS, le marché noir fournissait des vidéocassettes de Duran Duran, puis de Kiss, puis des VHS au monde, on trouvait ça vraiment cool, les années 80, le marché noir. Mais quand on veut parler de drogue, oh, le marché noir, ça devient quelque chose de dangereux, de sombre. Je dis pas qu'il y a pas des dangers, là.
Ouais, mais monsieur Saint-Onge, quand même, je veux dire, souvent, le marché noir de la drogue, c'est contrôlé par le crime organisé, c'est pas des enfants de cœur, là?
Pas pour le cannabis. Le cannabis, c'est justement quelque chose de trop facile à faire pousser. Dans les régions, les crimes organisés, comme les motards, ont plus le contrôle, parce qu'évidemment, le réseau il est plus petit. Mais à Montréal, puis à Québec, ils ont pas le contrôle. Non, je le sais. Mais, je veux dire, puis la plupart, en général, les motards, les crimes organisés, ce ne sont que les revendeurs, ce ne sont pas les producteurs. C'est que eux, les revendeurs, ils vendent toutes sortes de drogues bien plus payantes. Là, en région, là, la coke, les pilules, c'est payant en tabarnak pour ces gens-là. Mais là, il y a aussi une demande de cannabis. Donc, dans leur offre, il y a du cannabis. Mais ce ne sont pas les producteurs. Ils ne font pas beaucoup d'argent avec le cannabis. D'ailleurs, si on leur enlevait des mains, ils seraient bien contents. Parce que c'est du trouble pour eux. Ça pue, ça prend de la place, ça demande des grosses installations, c'est risqué. Bien plus que tout le reste.
Hey, je serais curieux de savoir. Moi, je suis un gars de publicité. Je travaille là-dedans avec la radio puis tout ça. Puis, veux pas aux États-Unis là, la pub c'est roi. Quand qu'on vend de la bière, c'est la Budweiser contre la Miller contre la Coors Light. Puis, c'est qui aura pas la plus belle affiche avec la pitoune puis de ci puis de ça. Est-ce que le cannabis dans la version légale au Colorado est frappé par la pub et tout ça? Donc, est-ce que les gens ont des belles affiches? Est-ce qu'on a du cannabis light, du cannabis heavy, strong, ou est-ce qu'on a vraiment un côté marketing de tout ça?
Oui. Par contre, les joueurs étant plus petits, en ayant des budgets plus serrés, il n'y a pas énormément de publicité ou de marketing aussi agressif que les multinationales de la bière. Les multinationales de la bière ont des immenses budgets de marketing, ce qui c'est pas le cas actuellement parce qu'il n'y a pas de gros joueurs dans le cannabis actuellement parce que les gros joueurs sont obligés de respecter la loi fédérale qui interdit encore le cannabis. C'est pour ça que c'est des petits joueurs actuellement qui n'ont pas les reins assez solides pour se lancer dans des publicités très agressives à la télévision, etc.
Alors, est-ce qu'on colle des noms accrocheurs à ce moment-là aux variétés, comme, tu sais, comme on parle de la Coors Light ou de la Bud Light, est-ce qu'il y a du Pot Light et des choses comme ça?
Ben oui, clairement. Non, effectivement, depuis des années, hein, c'est comme ça. Le cannabis, il y a comme trois sortes. Il y a du sativa, du indica et un hybride. Il y a donc un mélange des deux. La grande majorité des cannabis disponibles sur le marché, c'est des hybrides. Ça n'existe pas du sativa pur, ça n'existe pas vraiment du indica pur. Mais c'est toujours des hybrides. Puis là, les producteurs, ceux qui font la génétique, là, qui est des graines puis qui en reproduisent, ils vont travailler sur des noms pour justement que ce soit plus vendeur. Bon, moi, à un moment donné, je trouve que c'est un peu surfait. Wow. Puis justement, c'est du marketing un peu bidon. Mais oui, ça se fait. C'est la grosse affaire, en fait, là, dans le domaine. Puis présentement, il y a aussi beaucoup, tous les extraits. Bon, dans ta jeunesse, il devait avoir un peu de hashish. Mais ça, c'est juste un des extraits. Maintenant, ils font des tirs qu'on appelle souvent du shatter. Donc, c'est des concentrés là, qui vont jusqu'à 80-90% de cannabinoïdes. Là. C'est extrêmement puissant. Qui sont produits là avec une production plus de type industriel. Donc ça, c'est très à la mode actuellement. Là.
OK. On jase pour jaser, là, en terminant, M. Saint-Onge. Mettons que l'année prochaine, aux élections fédérales, Justin Trudeau est premier ministre du Canada. Est-ce que vous croyez qu'il va copier ce modèle-là ou encore il va être plus de votre côté, comme vous nous expliquiez tantôt, ce qui serait mieux selon vous?
Il va être plus du côté de l'hyper-contrôlite aiguë. Ouais. Mais le fédéral a toujours été comme ça. D'ailleurs, le fédéral s'est emparé du cannabis en l'incluant dans le code criminel. Mais le cannabis est de responsabilité provinciale. Il va falloir que l'Assemblée nationale le dise haut et clair que c'est leur responsabilité de gérer le cannabis au Québec. Comme ils l'ont fait avec la loto dans les années 60-70, comme ils l'ont fait avec l'avortement dans les années 80.
Comme ils l'ont fait avec l'alcool aussi. Puis si on prend ce modèle-là, ce sera pas mieux.
Il faut, quand on parle de modèle, là, le modèle du cannabis, on peut pas faire un copier-coller du modèle de l'alcool. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait au Colorado puis à Washington. On peut pas non plus prendre le modèle juste du café, qui est un marché vraiment trop libre. T'as aussi le marché des tomates ou des produits agricoles en général et le modèle du lait. Le cannabis, là, son modèle est à quelque part dans ça, dans le milieu de ça, parce que il y a des risques, des dangers, il faut faire attention, mais en même temps, il faut essayer de libéraliser le plus possible le marché pour qu'il y ait le plus de joueurs. C'est un produit du terroir, là, je veux dire. Chaque région va avoir son cannabis bien spécifique parce que le sol va avoir une influence après sur le produit, etc. C'est une problématique que peu ont soulevé pour l'instant, mais on doit le faire. L'Assemblée nationale doit le faire. Ce n'est pas un projet de parti politique réellement. C'est un projet national. On doit agir et on doit pas laisser Trudeau et le fédéral de continuer à jouer le jeu sur le cannabis. On doit dire que c'est notre responsabilité, notre compétence, et on va agir. Et on peut le faire dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre après lui, d'ailleurs.
Monsieur Saint-Onge, je vous remercie. C'était bien intéressant. Yes. Bonne fin de journée.
Oui, n'oubliez pas d'écouter JE ce soir à 19h.
Ben oui, absolument. Justement. Thank you, man.
Au revoir.
Au revoir, bonne fin de semaine. Hugo Saint-Onge, qui a été impliqué en politique pour Blockpot, parti marijuana, puis il a accompagné les gens de JE ce soir. Vous allez voir ça au Colorado.
J'ai beaucoup aimé son récit dans le genre « C'est cool en tabarouette que le pot soit illégal au Colorado, mais 80% des ventes, c'est pas les locaux qui font les achats, mais plutôt des touristes qui vont là pour le fun parce que c'est trippant maintenant de pouvoir fumer du pot sans te faire juger, regarder et te faire coller une étiquette d'illégal.
Pis t'sais,
comme Amsterdam, c'est ça le trip aussi.
Oh,
là,
oui. Puis tu sais, ce qui a amené aussi, c'est intéressant de dire, regardez, là, on est, tu sais, tous les jeunes potos, ils passent tous par le même bout. Faudrait que ça soit illégal au Québec, puis le gouvernement toucherait des taxes, puis ça serait bon pour tout le monde. Mais avez-vous vu au Colorado aussi, chaque plan a un code barre, le gouvernement met ses pattes là-dessus.
Toujours pensé, moi, si ça coûte trop cher, puis ça bosse pas assez, il y aura toujours un marché parallèle qui va exister.
T'en souviens-tu, l'autre fois, j'avais fait rire de moi il y a un an, parce que je me souvenais pas, parce que honnêtement, j'en ai pas de potes, je me souviens pas comment ça coûte.
J'ai aux gens, je pense que ça coûte 15$ un gramme de pot. Puis le monde m'a appelé. Non, non, ça a été des maladies, des patates frais, tu te fais fourrer, c'est 10$. T'es en train de vous dire qu'au Colorado, c'est bien beau, là. Mais c'est 17-18$, puis 20$ de taxes, 20%. Regarde, les kids n'ont pas les moyens de s'acheter ça non plus. De toute façon, ça prend 21 ans. Si t'es un casier, tu peux pas en faire le commerce, puis de ci, puis de ça.
Je regardais dans le journal, il y a quelque temps, un jeune qui disait avoir eu une dépendance sévère aux potes, puis tout ça. Puis je me posais la question, c'est une bonne idée de légaliser dans des cas comme ça? Il y en a qui ont des dépendances sévères envers l'alcool, des dépendances sévères envers la cigarette, puis Christy, c'est toujours bien légal aussi, là.
Mm-hmm.
J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler. Ça me surprendrait que le Québec se prononce avant Ottawa, comme M. Saint-Onge le demandait. Je suis aussi de son avis, la contrôlite aiguë de nos gouvernements, c'est sûrement ça qui s'appliquerait dans ce dossier-là également. Ce sera à suivre. J'ai hâte d'écouter ça à J.A. ce soir. 13h10, Fil des gagnés s'en vient dans quelques instants.
Kid 95, Radio X.